Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'éducation ici et ailleurs, un podcast qui va à la rencontre du coordinateur de chaque nouveau numéro de la Revue internationale d'éducation de Sèvres, édité par France Éducation Internationale. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Hélène Buisson-Fenet, sociologue de l'éducation et directrice de recherche au CNRS. Elle est accompagnée de Yannick Ten, inspecteur général de l'éducation nationale de l'enseignement primaire. Ensemble, ils coordonnent le 89e numéro de la revue intitulé « La santé à l'école ». Ce numéro étudie les relations entretenues entre les familles, les professionnels de santé et les enseignants. D'une conception traditionnelle fondée sur les maladies vers la prise en compte du bien-être des enfants, comment la santé à l'école a-t-elle évolué? Quels acteurs sont légitimes pour intervenir? Nos deux invités nous donnent un aperçu des tendances qui se dégagent à la lecture de ce numéro. Dans quel contexte est apparu le lien entre santé et école et quel était l'objectif visé?
C'est une question qui ouvre deux volets différents dans la manière dont elle appréhende le terme de contexte. Il y a d'abord le contexte socio-historique auquel on pourrait penser. Et à ce titre, la santé publique devient en fait une préoccupation d'État au 19e, dans le sillon des grandes découvertes vaccinales et pour la France, dans le sillon de la révolution pasteurienne. Mais le lien avec l'éducation au sens d'éducation scolaire, c'est-à-dire l'instruction, se développe, on pourrait dire, d'abord en négatif, au sens où l'école au XIXe siècle est décrétée insalubre, y compris par le ministère de l'instruction publique de l'époque, Duruy. Et on a tout un tas d'instructions officielles qui promulguent des lois sanitaires pour l'enseignement secondaire, et comme primaire d'ailleurs. Les établissements sont inspectés avant que l'hygiène scolaire soit promue par le ministère et se développe dans les programmes à partir des années 1880. Le modèle développé durant la deuxième moitié du XXe est celui d'une vision beaucoup plus globale, on dirait holistique, de la santé, et va s'axer sur l'équilibre entre l'individu et son environnement, et non plus sur le curatif de la maladie ou le préventif de la maladie. Donc la définition de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé en 1946, propose justement une santé au sens beaucoup plus large du terme qu'auparavant. Du coup, l'éducation à la santé va changer progressivement à son tour de paradigme et elle va viser en fait ce qu'on appelle le bien-être complet de l'individu, que l'individu doit lui-même apprendre et prendre en charge. Donc l'éducation à la santé, à la suite notamment de la charte d'Ottawa en 1986, si on fait des grands pas chronologiques, va osciller entre d'un côté une conception préventive des maladies, à travers notamment la notion de comportement à risque, et une conception intégrative fondée sur les conditions de vie.
Pour rebondir sur le contexte historique et, on va dire, politique et sociologique que Hélène a pu faire, c'est vrai que le comité de rédaction s'était interrogé depuis un certain temps sur cette notion de santé et école. Et notamment en prenant un angle qui était celui de la médicalisation de et à l'école. Le questionnement qui est apparu aujourd'hui a été plutôt celui à la fois de cette médicalisation et surtout de la question de l'expertise qui pouvait être donnée à la fois à un triptyque que constituent les familles, les professionnels de santé et les professionnels de l'école. Et le numéro s'intéressait finalement à quels étaient ou quels pouvaient être les équilibres qu'il y avait entre les différentes parties de ce triptyque, avec une interrogation sur les objectifs de chaque partie. Est-ce que ce sont des objectifs qui sont consonants, contradictoires? Est-ce que ce sont des objectifs qui sont différents? Et dans ce cadre-là, il nous est apparu intéressant de voir et d'interroger l'ensemble des contextes de système scolaire dans l'ensemble des continents et d'aller voir un petit peu ailleurs comment cette approche pouvait, à la fois d'un point de vue historique comme d'un point de vue politique et sociologique, mais aussi d'un point de vue actuel, s'organiser autour des relations entre école et santé.
Merci à tous les deux pour ces précisions. Comment se répartissent aujourd'hui les rôles entre l'école, les familles et les professionnels de santé?
Alors, répartition des rôles, je pense qu'on pourrait davantage tirer quelques grands traits de chacun de leur positionnement collectif plutôt. Je dirais que ce qui est ressorti de ce numéro, c'est qu'on a assez systématiquement des familles qui sont sans doute davantage conscientes de leur droit à la reconnaissance médicale et qui savent davantage se servir de ces droits pour prétendre pour leurs enfants à une scolarisation à la fois plus longue et éventuellement plus linéaire. Du côté des professionnels de santé, on pourrait dire qu'ils se sont davantage socialisés, et quel que soit le système éducatif considéré, aux normes scolaires, bien qu'ils se posent régulièrement, notamment dans les pays du Nord, ils se positionnent régulièrement dans les pays du Nord d'une manière assez critique à l'égard des rigidités de ces normes scolaires. Et du côté des institutions scolaires, aussi diverses soient-elles, on a plutôt l'impression à la lecture de ce numéro qu'elles ont appris à faire avec cette médicalisation qui passe par l'intervention de professionnels. On peut penser aux orthophonistes, on peut penser aux logopédagogues du côté du Québec, par exemple, ou de la Belgique, qui se situent en fait dans le halo scolaire de la même manière qu'ils se situent dans le halo du médical. Et du côté de l'institution scolaire, elle peut s'appuyer sur cette médicalisation finalement pour externaliser, bon an mal an, certaines de ses prises en charge les plus délicates. C'est-à-dire qu'on ne va plus hésiter à confier à telle profession paramédicale des élèves dont on estime que les conditions biologiques et aussi sociales d'accès aux apprentissages peut poser souci à l'expertise scolaire.
Pour rebondir aussi sur l'évocation d'Hélène, on a observé et on observe dans l'ensemble des articles et donc des exemples de pays à la fois une question ou du moins un questionnement de ce qui doit être enseigné finalement concernant la santé. Et on voit très bien qu'il y a une énonciation de programmes et donc de programmes qui vont prendre en compte des contenus scolaires. Et on a de manière parallèle ou de manière concomitante des interventions effectivement de professionnels. On observe dans ce cadre-là des répartitions certainement de rôles, comme l'a souligné Hélène, mais avec peut-être des approches qui peuvent être très différentes selon les pays. Il y a des pays où effectivement les professionnels de santé vont être intégrés au fonctionnement des écoles, voire dans des programmes européens ou internationaux. On pense notamment aux écoles santé dans un certain nombre de pays qui sont donnés dans la revue. Mais on peut aussi constater qu'il y a des pays où ces professionnels de santé sont très extérieurs. Et donc, le lien va reposer principalement sur les familles. On a observé aussi le fait qu'un certain nombre d'enseignants dans les pays que l'on a mis dans cette revue, ont des demandes d'aide et d'accompagnement des élèves avec qui ils ont des difficultés. Et on voit très bien que dans ce cadre-là, il y a à la fois une volonté certainement de participer à une inclusion scolaire beaucoup plus forte, beaucoup plus importante, à la fois des élèves en situation de handicap ou des élèves en difficulté, mais parallèlement, il y a aussi de la part des enseignants, une demande vers les services médicaux pour des prises en charge d'élèves dont l'école se suppose être incapable d'intégrer ou du moins d'inclure. Et on voit très bien que là, dans ce cadre-là, les équilibres qui sont mis en œuvre dans l'ensemble des pays peuvent être très différents selon l'organisation à la fois du système sanitaire comme du système scolaire.
Merci beaucoup d'avoir apporté à nouveau des précisions sur cette thématique. Cela m'amène à ma dernière question. Qu'est-ce qui ressort finalement de la comparaison internationale entre les différents pays étudiés ?
Alors, il me semble que ce sur quoi ce numéro nous permet de mettre véritablement le doigt et l'accent, si je puis dire, c'est sur l'existence d'une circulation internationale des normes de santé dans le champ éducatif. On a vraiment des grandes organisations internationales, évidemment l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi l'UNICEF, l'OCDE, l'UNESCO, qui ont su véhiculer des orientations, qui ont su promouvoir, voire produire par elles-mêmes d'ailleurs des études. Je pense par exemple à l'enquête collaborative Health Behavior in School-Age Children qui est présentée par Emmanuel Godot et son équipe dans ce numéro, et qui ont su aussi initier des expérimentations grâce à des coordinations partenariales comme par exemple la chaire UNESCO Éducation et Santé qui est portée en France par l'université Clermont-Auvergne depuis 2018, je crois. Et ces circulations ont pour effet de produire des références communes sans pour autant que s'établissent des convergences, par exemple, entre les pays. Donc voilà, une circulation internationale des normes de santé qui produit sans doute des formes d'harmonisation à certains niveaux, mais qui n'empêche pas qu'on ait des déclinaisons très variées, qui restent très variées, de l'articulation entre éducation et santé.
Oui, on a effectivement des problématiques communes, alors qui tournent autour d'une approche des besoins à la fois spécifiques des élèves, du bien-être, et on le voit au niveau mondial, véritablement un questionnement sur comment finalement répondre aux troubles scolaires ou à la difficulté scolaire. Mais comme le souligne la revue, c'est vrai que ces problématiques communes ne conduisent pas à des réponses uniformes, à la fois parce que les systèmes scolaires sont effectivement très différents, mais les approches des politiques publiques sont aussi différentes, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'école et dans le lien qu'il peut y avoir entre ces deux pôles. Toutefois, on a aussi une remarque un peu générale et qui ressort un peu de la revue, c'est que le rôle des parents, finalement, est quand même très interrogé au niveau international. Quelle est leur place? Comment ils peuvent être reconnus quand même comme des experts éducatifs qui leur permettent à un moment donné d'intervenir, que ce soit dans le domaine du suivi sanitaire ou du suivi scolaire. Et on voit très bien que cette place des familles est interrogée dans l'ensemble des pays. Certains pays leur laissent une place plus importante, ou du moins avec un volontarisme qui est effectivement visible. Dans d'autres pays, c'est une place que les parents doivent gagner.
Un grand merci à tous les deux pour votre intervention et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ce podcast est disponible sur les réseaux sociaux et le site internet de FEI, ainsi que sur toutes les grandes plateformes d'écoute. Nous nous donnons rendez-vous à la prochaine sortie de la Revue internationale d'éducation de Sèvres à la rentrée 2022. Merci beaucoup, à bientôt !